Audiolib présente Là où vivent les hommes de Christian Signol, lu par Xavier Percy. À Simone et Claude Servenay. Il nous faut retrouver un commerce avec le monde et une présence au monde plus vieux que l'intelligence. Merleau-Ponty. Ne faire qu'un avec toute chose vivante, retourner par un radieux oubli de soi dans le tout de la nature. Hölderlin, Hyperion. Printemps. Chapitre 1. En montant sur ces hautes terres pour la première fois, moi qui n'avais vécu que dans la foule des villes, le bruit et la fureur du monde, je découvris un univers qui m'était totalement étranger. La vastitude primitive et sauvage d'un Caus, ses dolines et ses avennes, ses fleurs aux couleurs aiguisées par le vent, sa sauvagine secrète, ses oiseaux libres, sa solitude et son silence. Il m'avait fallu attendre l'âge de 30 ans pour renoncer à tout ce qui, jusque-là, m'avait paru important, essentiel, indispensable, même le superflu. Tout ce qui nous encombre et que l'on finit par porter comme un fardeau qui vous écrase, en mesurant sa dérisoire vanité. Il y avait encore des langues de neige sur les sommets, ultime vestige de l'hiver qui refuse de disparaître malgré la caresse des beaux jours. Que devient le blanc quand la neige fond ? Je ne parvins pas à me soustraire à cette question que je savais stupide, mais qui me délivra en même temps d'autres questions devenues subitement sans importance au cœur de ces grands espaces, sous ce ciel immense reposant sur les crêtes bleues des sommets. Moi qui ne connaissais du monde vivant que ce que j'en avais aperçu au cours de brèves vacances d'été, je compris ce jour-là pour la première fois, en rencontrant Achille, le vieux pastre transhumant désormais sédentaire, que jusqu'ici ma route m'avait seulement conduit vers les parkings souterrains, les tours monumentales, les immeubles de verre, les bureaux aseptisés, les ordinateurs tout-puissants, la virtualité des images où l'on peut découvrir tout ce que les hommes croient qu'il leur arrive, alors qu'ils ne sont que les enfants perdus de la terre qui les porte. Achille, je le trouvais debout au bord de la route, après avoir fui droit vers le sud, sans repère, sans activer mon GPS. Il était engoncé dans sa grande cape de berger qui l'abritait des froides averses que le vent promène sur ses hautes terres jusqu'à la fin du printemps. J'avais laissé ma voiture un peu plus bas et je montais à pied vers le sommet lunaire où survivait ce que l'on appelle une chazelle, un petit abri en pierre plate, d'où Achille avait surgi après m'avoir aperçu de loin, en homme habitué à discerner la moindre anomalie dans un troupeau ou dans le paysage. Il ne prononça pas un mot, il attendit que l'intrus parle, mais il ne me parut pas hostile. Des yeux bleus d'azur émergeaient de la capuche en toile grise, où le visage rongé par une barbe épaisse semblait étrangement vivant, sans doute grâce à ses yeux d'une extrême mobilité, habitués à tout voir, à devancer le danger pour ses bêtes, à deviner celle qui, subitement, entraînera le troupeau vers la veine meurtrier. Son chien n'aboya pas. C'était un border collie noir et blanc qui s'avança vers moi pour flairer mes mollets et, sur un chuintement de lèvres de son maître, se replia vers lui qui m'attendait sans hâte, le regard dirigé vers son troupeau groupé au fond d'une doline. D'un hochement de tête, Achille répondit à mon bonjour, mais il ne fit pas le moindre mouvement vers moi. Je crus bon d'ajouter que je n'étais pas d'ici, mais que je venais de loin, de Paris précisément, et il répondit d'un ton neutre. « Ça se voit. »« Ah bon ? Et à quoi donc ?» Il haussa les épaules, reprit d'une voix égale « L'averse arrive, il faut s'abriter. » Cette invite me parut encourageante et, de fait, comme s'il acceptait ma présence, il remonta vers la chazelle en faisant un signe de la main. Je le suivis aussitôt, d'autant que de grosses gouttes de pluie commençaient à s'écraser sur les rochers, accompagnées par la colère d'un vent coupant comme une lame. Il entra dans l'abri en lauze plate, fit asseoir son